Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Moed Katan, page 13, DAF Yud Gimel.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Moed Katan et Yud Gimel. La Mishnah nous enseigne qu'on a le droit d'acheter une maison, un esclave ou un animal pendant la Moed seulement si on en a besoin pendant la fête ou seulement si le vendeur n'a pas de quoi manger, donc c'est seulement dans ce cas-là que ça serait permis. Demande la Gemara, est-ce qu'on aurait le droit de faire travailler quelqu'un pendant la Moed, bien que c'est interdit de travailler pendant la Moed, mais s'il n'a pas de quoi manger, est-ce que ça serait permis? Je dis à Gemara, c'est marqué dans l'autre Mishnah. Il est marqué que le besoin du vendeur, s'il n'a pas de quoi manger. Quand on te dit que le vendeur a besoin, c'est qu'il n'a pas de quoi manger. Donc pourquoi est-ce que tu précises encore Enoma Yochal? Je dis à Gemara, non, pas forcément. Qu'est-ce qui s'appelle le Tzorech Hamocher? C'est qu'il n'a pas de quoi manger. Donc ce n'est pas deux enseignements, c'est le même enseignement. Abaye ramène une preuve. Il est marqué qu'on n'a pas le droit d'écrire un shtar, une reconnaissance de dette pendant la fête. Mais si le prêteur n'a pas confiance en l'emprunteur, ou alors si le sofer. Le scribe n'a pas de quoi manger, on a le droit d'écrire. Chez Enoma Yochal, de quoi on parle? N'est-ce pas que c'est bien parler d'une personne, d'un employé qui doit faire un travail et qui n'a pas de quoi se nourrir? Parce qu'on ne pourrait pas dire que c'est le même enseignement, à savoir l'emprunteur ne le croit pas, il n'a pas de quoi manger. Il ne le croit pas qu'il n'a pas de quoi manger. Non, c'est sûr que ça n'est pas ça le pshat. Donc forcément, c'est deux enseignements différents. Premièrement, s'il n'a pas de quoi manger. Deuxièmement, s'il n'a pas confiance en lui. Demande la Gemara, maintenant que tu me dis ça, alors pourquoi est-ce que à Pessah, il est marqué que seuls trois métiers sont permis, la veille de Pessah avant Khatzot, les Khayatim, les tailleurs, les coiffeurs et ceux qui lavent les habits. La Mishnah là-bas nous dit pourquoi est-ce qu'ils ont le droit, parce que c'est quelque chose qu'on permet pendant la Moed. Par exemple, coudre, on permet pendant la Moed, si c'est quelque chose de non professionnel. Hein, ça part, un coiffeur et celui qui lave des habits aussi, pour les personnes qui n'avaient pas le choix avant, c'est permis pendant la Moed. Donc d'après toi, d'après ta logique, n'importe quel travail en vérité pourrait être fait à la veille de Pessah, parce que pendant la Moed, on permet pour ceux qui n'ont pas de quoi manger. Il dit, papa, j'ai pas compris, alors tu voudrais qu'il soit aussi permis de construire à la veille de Pessah, de la même manière qu'il est permis de construire pendant la Moed quand on n'a pas le choix. Est-ce que tu voudrais nous dire, Avila, tu voudrais dire qu'on aurait le droit d'écrire la veille de Pessah sans aucune limite, mais puisqu'on a le droit d'écrire un acte de mariage, un acte de divorce, on a le droit d'écrire même un reçu. Donc puisqu'on voit que cette melacha est un petit peu permise pendant la Moed, on devrait permettre même la veille de Pessah. Et là, forcément, la logique des deux permissions est différente. La veille de Pessah, on permet tout ce qui est Tzorei Chachag, tout ce qui est pour la fête, donc c'est pour ça que ces métiers sont permis. Chol HaMoed, on a permis tout ce qui est Chol Tzorei de Chol HaMoed, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, c'est pour ça qu'on lui permettrait de faire toutes sortes de travail, même pendant Chol HaMoed. La Mishnah nous enseigne qu'on n'a pas le droit de déménager d'une maison vers une autre pendant Chol HaMoed, mais on a le droit de déplacer vers un Chatzer. On n'a pas le droit de récupérer quoi que ce soit d'un artisan, sauf si il est Chosheh Shlev, c'est-à-dire qu'il a peur pour ses affaires, il a le droit de les déplacer de chez l'artisan, de les mettre dans une cour. Non, la Gemara, comment est-ce que tu m'as dit au début de la Mishnah qu'on a le droit de déménager d'une maison à une autre et après tu me dis on a le droit de déménager vers une cour? Je ne comprends pas. La Gemara répond non, c'est pas vers une cour. Si tu veux sortir les choses de la maison vers la cour de cette maison, tu as le droit. Mais vers une autre cour, c'est interdit. On n'a pas le droit de récupérer quoi que ce soit d'un artisan, nous dit la Gemara. Rafa par raconte que Rava leur avait posé une question. Ici, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de récupérer. Dans une Mishnah, il est marqué qu'on a le droit de déposer, qu'on a le droit de récupérer, même si ce n'est pas pour la fête. On lui a répondu, première réponse. Quand est-ce qu'on a permis de récupérer et de les poser? C'est le 14 Nissan. Quand est-ce qu'on a interdit de récupérer? C'est pendant Chol HaMoed. Deuxième réponse qu'on a répondu. Les deux enseignements parlent pendant Chol HaMoed, mais ça dépend si on a confiance en l'artisan ou pas. La preuve, c'est qu'il est marqué dans une braïta. On a le droit de récupérer des ustensiles pendant Chol HaMoed de chez l'artisan, comme des ustensiles qui sont le Tzorei HaMoed, des verres, des cruches, mais on n'a pas le droit de récupérer ce qui n'est pas pour la fête, comme de la laine qui était chez un teinturier. Si jamais l'artisan n'a pas de quoi manger, on a le droit de lui donner son sahar et de laisser les affaires là-bas. Si on n'a pas confiance en lui, on peut le déposer dans la maison qui est proche de chez l'artisan. Si jamais on a peur qu'il se fasse voler là-bas, on a même le droit de le ramener chez soi à la maison. Donc on voit que si on n'a pas confiance en l'artisan, on a le droit d'amener ses ustensiles à la maison. Donc on pourrait expliquer. Donc la Mishnah qui nous a dit qu'on a le droit de récupérer, c'est quand on n'a pas confiance en l'artisan. On dit à Gemara, c'est vrai que c'est un bon enseignement. Mais ça ne répondrait pas tout, puisque dans cette braïta, il est marqué qu'on peut aussi déposer. Et évidemment, déposer chez l'artisan, ce n'est pas possible d'expliquer qu'on parle pendant Chol HaMoed. Forcément, on ne parle pas pendant Chol HaMoed. On revient à la réponse antérieure, à savoir, on parle la veille de Pessah, et là, on a le droit même de déposer. La Mishnah nous enseigne qu'on a le droit de recouvrir des filles qui sont en train de sécher dans un champ de peur qu'elles s'abîment avec la pluie. Rabbi Yehuda permet même d'être abîme. La Gemara va expliquer ce que c'est. Moche Perot, ceux qui sont des ventes de toutes sortes de choses qui sont les Tzorei HaMoed, ont le droit de le faire d'une manière discrète. Des chasseurs, ou ceux qui vont couper du blé pour en faire toutes sortes de plats, ou tous ceux qui vont écraser des foulim pour en faire des plats, ils ont le droit, donc ils font des grandes quantités, ça pourrait amener à suspecter de travailler pas pour la fête, ils ont le droit de le faire de manière discrète. Rabbi Yossi nous dit, « Em ichmiro alatsmam », la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. La Gemara revient sur les deux termes qui sont utilisés au début de la Mishnah, Mechapim et Meabim. On a une marloquet Temoraim au nom d'autres Emoraim. Première explication, Mechapim, c'est faire une couverture légère, c'est-à-dire mettre du blé espacé. Meabim, c'est mettre, pardon, pas du blé, de la paille pour pouvoir les couvrir. Deuxième explication, et donc Meabim, d'après ça, ça serait de mettre de la paille l'une à côté de l'autre. Deuxième vision de la marloquet. Le Tanekama dirait Mechapim, c'est-à-dire de mettre n'importe quelle sorte de paille, qu'elle soit proche ou éloignée, et Meabim, ça serait de faire un tas. La Gemara nous ramène une Braïta qui va dans ce sens où c'est marqué clairement que Meabim, c'est permis, et qu'est-ce qui s'appelle Meabim, c'est de faire un tas. Il est marqué dans la Mishnah qu'on a le droit de vendre que d'une manière discrète. La Gemara nous dit, et Rabbi aussi nous a dit, Ichmiro Latzmam. Qu'est-ce que ça veut dire Ichmiro Latzmam? Est-ce que ça veut dire que la vente discrète, c'est ça la Khumra? Ou est-ce que bien qu'on ait permis une vente discrète, eux ont décidé d'être Mahmir et de ne pas le faire Bichlal? On ramène une braïta dont on pourrait trancher. Il est marqué que ceux qui vont faire ces ventes discrètes ont le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Rabbi aussi nous dit que les commerçants à Tveria, eux, étaient marmures de ne pas le faire Bichlal. Les chasseurs le faisaient de manière discrète pendant Chol HaMoed. Rabbi aussi nous dit que les chasseurs de Hako ne le faisaient pas Bichlal. Dachoché, donc ceux qui écrasaient toutes sortes de céréales, Chilka, Dragis, Tissin, Lagma, avec ce que ça veut dire, le faisaient de manière discrète. Rabbi aussi nous dit qu'ils ne le faisaient pas Bichlal. Donc on voit que d'après Rabbi aussi, la Chumra, c'est de ne pas faire de vente Bichlal. Qu'est-ce que c'est Chilka, Targis, etc. Abaye nous dit c'est coupé. Un grain de blé, en deux c'est Rilka, en trois c'est Tirgis, et en trois c'est Tisni, en deux c'est Rilka, en trois c'est Tirgis, en quatre c'est Tisni. Rav Dema lui nous dit que le Rilka c'est Kunta, c'est-à-dire du sarrasin. Il est marqué que Rilka, Tirgis et Tisni sont tout entamés, parce qu'on est persuadé qu'ils ont été trempés dans de l'eau. D'après celui qui me dit que c'est une manière de couper le blé, bah évidemment, pour couper le blé, on a besoin de le tremper dans l'eau. Mais celui qui me dit qu'on parle de sarrasin, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est sûr. Tu es persuadé que quand tu as du sarrasin face à toi, il est perméable à la touma. Peut-être qu'il n'a pas été trempé dans l'eau. Pour la Gemara, on parle d'un cas où il a été épluché. Forcément, pour cela, il fallait tremper dans l'eau. Pourquoi est-ce que ça s'appelle chilka? Parce que c'est grâce à ça qu'ils deviennent lisses. On a enlevé la peau et donc il s'appelle chilka chalak. Il demande la Gemara, il est marqué que celui qui a fait un éder de ne pas consommer du lagan, il n'a pas le droit de manger full amitri quand il est sec, mais quand il est lard, quand il est frais, il a le droit de le manger. Et il a le droit de le manger. Quand il n'a pas le droit de manger du riz, pardon, il a le droit de manger du riz, il n'a pas le droit de manger chilka tirgis ou tisni. D'après celui qui nous dit que il a le droit de manger chilka tirgis ou tisni. D'après celui qui nous dit qu'on parle de céréales coupées, je comprends pourquoi est-ce qu'il a le droit parce que ça n'est plus défini comme des céréales. Mais d'après celui qui te dit que kunta c'est du sarrasin, bah sarrasin c'est des céréales, pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de le manger puisqu'il a fait un éder de ne pas manger le céréale caché à... Ravuna a permis à ceux qui vendaient des épices de les vendre de manière publique devant tout le monde. Dans la Gemara, il est marqué dans une braïta. Mais si son magasin est ouvert, enfin un endroit assez fermé, il a le droit de l'ouvrir normalement. Mais si c'est ouvert vers la rue, là il n'ouvre qu'une porte sur deux. Le seul endroit où on a permis de faire une vente publique, c'est le dernier jour de la fête, juste avant le dernier jour de Sukkot, donc Shmini Atzeret, c'est permis de le faire. Donc comment est-ce que lui a permis de faire une vente sans discrétion? C'est pas la Gemara. Puisqu'on parle de tavlinim, c'est-à-dire d'épices. Et ces épices, on sait très bien que personne ne va les acheter sur du long terme, on les achète que sur du court terme. Donc c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être discret, puisque tout le risque était la suspicion des gens. Et là, il n'y a pas de quoi être suspecté. La Mishnah du Perek d'après nous enseigne qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de laver ses habits pendant Chol HaMoed, mais il y a des gens qui ont le droit de le faire, comme celui qui était en déplacement, celui qui était kidnappé, celui qui était en prison, celui qui était excommunié, celui qui avait un éder, celui qui était nazir ou metzora, qui est en train de se purifier, tout cela n'avait pas le droit de se couper les cheveux. Ou n'ont pas eu la possibilité de se couper les cheveux. Arrivé Chol HaMoed, ils ont le droit. Voici ceux qui ont le droit de laver leurs habits. La même liste qu'on a dit précédemment, mis à part ça, on a ramené les serviettes avec lesquelles on s'essuie les mains, les serviettes avec lesquelles on s'essuie le corps, les serviettes utilisées par les coiffeurs, Zavin, Zavot, Nidot, Yoldot, toutes ces personnes qui sont impures et qui, leurs habits aussi sont impurs, il faut les purifier. Et donc tous ceux qui passent d'un statut d'impureté à pureté ont le droit de laver leurs habits, mais toutes les autres personnes n'ont pas le droit de laver leurs habits. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a le droit d'effectuer une vente pendant Chol HaMoed quand c'est le besoin de l'acheteur ou du vendeur. Un employé a le droit de travailler quand il n'a pas le droit de quoi manger. Rav Pessah, seuls trois métiers ont le droit de travailler. Le chayat, le sapar et celui qui lave les habits. On n'a pas le droit de déménager d'une maison vers une autre. On a le droit de sortir les choses de la maison vers la cour. Et on n'a pas le droit de récupérer quoi que ce soit d'un artisan, sauf si on n'a pas confiance, on a le droit de le faire d'une manière discrète. Et on a le droit de recouvrir des figues qui sont étalées pour sécher. Marloquette, est-ce que seulement de manière espacée, ou alors même de manière approchée, ou alors même d'en faire un tas? Ceux qui font des ventes pendant Chol HaMoed doivent le faire de manière discrète, sauf s'ils vendent des épices. Ceux qui font qui préparent de la nourriture pour les gens, donc ils vont faire des grandes quantités, eux aussi doivent le faire de manière discrète. Rabbi aussi pense qu'il faut être marmire de ne pas le faire bichlal. La Mishnah nous enseigne que bien qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de se laver les habits pendant Chol HaMoed, tous ceux qui n'avaient pas le choix ont le droit de le faire avant, ont le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Le daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.